Tapis Soir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, l'économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les infos sport toutes les demi-heures. De 16h à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Destruction des zones d'effrayeur ou niches écologiques aquatiques, c'est comme ça qu'on les appelle. Voilà. Lorsque ce sont des endroits où les poissons se reproduisent, et malheureusement, ces endroits sont parfois détruits suite aux constructions anarchiques et autres mauvaises pratiques des pêches. On en parle avec Monsieur Gabriel Kombosi, directeur du Service national d'aquaculture. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Et nos meilleurs vœux, les meilleurs pour l'année nouvelle.
Meilleurs vœux également.
Voilà. Nous parlons aujourd'hui des zones d'effrayeur, ces endroits où se reproduisent les poissons. Où sont situés généralement ces endroits-là?
Bien, vous avez bien défini les zones d'effrayeur. C'est comparativement ce que nous pouvons dire sur le plan humanitaire. Ce sont des maternités.
Vous comprenez? Les maternités des poissons.
Voilà. C'est là où se reproduisent, vous l'avez bien dit, les poissons. Et ces zones-là,
se trouve à quel endroit exactement?
Ça se trouve dans les sites de pêche. Là où les poissons ont choisi de vivre. Vous voyez, les poissons, ils ont une écologie pour laquelle, ils sont adaptés à y vivre. Sur le plan de la température, sur le plan de l'humidité, la profondeur, etc. Alors, selon les espèces, ces zones de frayeur diffèrent d'une espèce à l'autre. Vous voyez? Et ces zones de frayeur sont souvent dans les endroits un peu plus cachés, là où la mer ne peut ne pas aller facilement détruire. Mmh. Malheureusement, vous l'avez dit encore dans votre introduction, que ces zones sont détruites, simplement par de mauvaises pratiques de pêche. Vous voyez?
Vous avez dit que ça se trouve dans les endroits cachés.
Les endroits suffisamment cachés.
Lesquels par exemple?
Les abords de fleuves par exemple, les contours, les confluents, tu vois, sous les herbes un peu, caché, et le poisson, il a besoin de se protéger. N'est-ce pas? Il va pas se mettre à la merci de tout pêcheur comme ça. Et malheureusement, les pêcheurs, ils connaissent ces endroits-là. Au lieu de les laisser, n'est-ce pas? Naturellement, le poisson se reproduit. Les pêcheurs, par faute de prises journalières qui ont diminué, ils vont jusqu'à...
Ils attaquent les poissons même dans leur maternité.
Voilà. Imaginez-vous un peu si, par exemple, aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de maternité sur le plan national. Qu'adviendrait-il? On n'aura plus de naissances, où les maternités sont détruites, de naissances, et c'est la baisse de la population. Et c'est exactement là, ce qui se passe sur les poissons aussi. Voilà. Alors, les mauvaises pratiques sont dues en quoi? Ça fera bientôt 40 ans, n'est-ce pas, que la pêche n'est jamais réglementée dans notre pays.
Depuis 40 ans.
En tout cas, si ma mémoire ne me trahit pas, toute la période de l'ancien président Mobutu, il n'y avait jamais cette réglementation de la pêche connue officiellement. C'est-à-dire quoi? Être pêcheur, être devenu pêcheur, tu veux. Vous comprenez? Aujourd'hui, si vous allez dans les sites de pêche le plus, potentiellement riche en poissons, je cite par exemple Siafumu. Et mes amis de Siafumu, je les salue en
passant. C'est où Siafumu?
Vers le Bakongo, vers le Mwanda. Vous voyez? Je cite par exemple les Kalemi, je cite par exemple Wanyaluku, là, dans la province de la Tchopo maintenant. Tu vois? Ces gens-là.
Les Touris aussi, ils sont clairs.
Ah, bien sûr, dans les Mahagi, dans le. Oui. Tout ça. Vous arrivez aujourd'hui, vous trouvez.
Sur les Tanganyika,
beaucoup
de pêcheurs, oui.
Vous arrivez aujourd'hui, vous avez un jeune gens devant vous. Et vous demandez l'âge. Il vous dit par exemple 30 ans. Vous dites, bon, je suis venu pour faire la vulgarisation de la pêche responsable. C'est-à-dire la conduite, le code de la pêche responsable. Et il vous demande, ça signifie quoi? Ça signifie que pendant les 12 mois de l'année, vous devez aujourd'hui vous habituer à ne pas pêcher telle date, de telle date à telle date. Parce que
c'est la période où les poissons
vont se reproduire. Ils vont s'exclamer.
Vous vous dites, mais c'est quoi mais cette affaire?
C'est quoi cette affaire encore? Et nous allons vivre de quoi?
Oui.
Vous voyez? Tout simplement parce que cette culture-là, de la conservation de la nature, n'a pas été démise depuis plusieurs années. Les conséquences sont là. Il y a la biomasse, c'est-à-dire la quantité de poissons qu'on devrait avoir normalement chaque année, diminue. Et aussi les espèces qui disparaissent, pas de mauvaises pratiques, vous l'avez dit. On pêche avec des mailles qui ne sont pas autorisées.
Avec les moustiquaires.
Moustiquaires.
Imprégnées d'insecticides.
Alors, on pêche à la dynamite, on pêche au poison, et voilà. Conséquence. Je veux ouvrir une petite parenthèse. Vers les années 1960, à l'accession du pays à l'indépendance, nous étions à peine 15 millions d'habitants. N'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, les statistiques projetées nous disent nous approchons les 80 millions d'habitants. À 15 millions d'habitants, il y avait une frange de gens qui s'étaient considérés comme des pêcheurs. N'est-ce pas? Mettons 10%. Les 10% ont pêché dans les sites qui existent jusqu'alors. Le fleuve Kongo n'a pas changé de longueur. Vous voyez? Les lacs, par effet des serres, des climats, ils diminuent de volume d'eau. Mais la croissance démographique continue sans cesse. Si nous étions 15 000 pêcheurs en 1960, aujourd'hui, la croissance arithmétique, logiquement, nous pouvons compter dans les 80, dans les 60 000. Alors que les sites de pêche n'ont pas
évolué. N'ont pas évolué, oui.
Vous voyez ? Conséquence, d'abord, la surexploitation de ces sites, c'est ce qui amène aussi les pêcheurs, n'ayant pas d'autre alternative, d'aller, quand il va faire toute une nuit de pêche et qu'il revient bréduit, alors à ce moment il dit non, je connais une frayère où je peux aller prendre même des petits poissons
qui viennent à peine de naître et qui doivent grandir.
Voilà. C'est ça le problème. La conséquence de la destruction des frayères, c'est la diminution de la biomasse et qui entraîne en corollaire la diminution de la capacité de nourrir la population par les poissons. Et soi-disant, aujourd'hui, on dit nous avons un potentiel de 700 000, n'est-ce pas, tonnes de poissons par an. Ça, c'est le potentiel.
700 000 tonnes de poissons par an.
Par an. Maintenant, les besoins de la population, n'est-ce pas, ce chiffre aujourd'hui aussi à quelque chose comme 500 000, n'est-ce pas, tonnes que nous devons produire pour donner à la population. Malheureusement, cette pêche-là, avec toute cette pratique-là, elle est artisanale. Et elle n'arrive à donner
que
200 000 tonnes.
De poissons.
De poissons. 200, 250 000 tonnes. Le déficit chronique de 300 000 tonnes, on l'importe.
C'est pour cela dans nos supermarchés, partout à Kinshasa, par exemple, nous n'avons que des poissons qui viennent d'ailleurs.
D'ailleurs. Ce sont des poissons qui viennent d'ailleurs, n'est-ce pas? Parfois de mauvaise qualité.
De mauvaise qualité.
Parfois de très faible valeur.
Poisson chinchard, ça c'est. Assez...
De très très faible valeur nutritive.
Nutritive.
Vous voyez? Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une alternative. C'est là que je disais quand on n'a pas encore ouvert l'émission.
Mais il semble que nous avons des lacs très poissonneux dans ce pays.
Nous avons des lacs très poissonneux. Ça c'est un slogan, n'est-ce pas? Mais il faut faire un effort pour arriver, n'est-ce pas, à produire, à sortir ces poissons de ces eaux-là. Et quand vous avez déjà détruit les frayères, il y a quelque chose qui ne va pas. Au même moment où vous avez détruit les frayères, au même moment où vous dites que nous sommes poissonnés.
Alors quand les pêcheurs attaquent ces zones de frayères où se reproduisent des poissons, après les poissons doivent quitter là-bas, donc ils vont chercher d'autres endroits.
Vous avez trouvé la solution.
Où ils vont se reproduire.
Vous avez trouvé la réponse. Je prends par exemple les eaux communes que nous avons entre l'Angola et la RDC au niveau de Moanda. De notre côté, il y a la surexploitation avec toutes ces méthodes-là. Alors que le Luanda, de l'autre côté, il respecte la fermeture et les ouvertures.
C'est quand la période de fermeture de pêche, généralement?
Ça dépend de province, ça dépend aussi des pays. Mais généralement, ici chez nous, c'est vers les mois d'avril et mai pour certaines provinces.
Avril et mai?
Et mai. Parfois janvier et février et mars aussi. Ça varie. Maintenant, les poissons, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent qu'il y a un traumatisme permanent et continuel de ce côté ici. Ils migrent.
Ils vont de l'autre côté de l'Angola. Où ils se sentent en sécurité.
Ils sont en sécurité. Ils sont en sécurité. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Non, ici chez nous, alors Kibiso, les poissons, ils n'existent plus. Voilà. Alors que c'est pas ça. C'est tout simplement une petite culture à observer. Et tout ira.
D'accord. Nous avons trois auditeurs qui vous suivent et qui voudraient aussi participer à cette émission. Symphorien Bidoya et Takananga, Michel Akikwit et Malonga nous appellent des bandes de nouvelles. Bien. Symphorien Bidoya, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, Jody, bonjour à tous, c'est mes meilleurs voeux.
Meilleurs voeux, Symphorien, quelle est votre question?
Oui, avant de poser la question, je
Oui, allez-y rapidement. Symphorien? Il n'est plus là, sûrement un problème au niveau de la liaison téléphonique. Michel, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour, merci le journaliste, bonjour à l'invité du jour.
Quelle est votre question, Michel?
Oui, ma préoccupation est celle-ci. Je suis Michel dans la province du Kulu, dans la ville de Kikwit, et je suis étudiant à l'IEC. Ma préoccupation est celle-ci. En suivant l'auditeur qui est en train de nous dire combien ces poissons sont multiples dans nos lacs et dans nos étendues de la République et démocratie du Congo, mais participamment à la population qu'on laisse des mers encore dessus. Quelles sont les conditions qui peuvent être valablement d'attraper ces poissons-là pour nourrir la population qui souffre de cette famine ici?
Bien. Malonga, vous êtes à Bandonville. Bonjour.
Bonjour, Jody, et bonjour, notre invité.
On vous écoute.
Ok, merci. Mes meilleurs voeux d'abord.
Meilleurs voeux, Malonga.
Ok. Bon, ici, je suis avec l'attention notre invité. Moi, je suis au bord de la rivière Kwilu et Congo. Je vois pendant la journée, pendant la nuit, comment les pêcheurs tuent les poissons. Et aussi, j'avais une occasion de poser avec les pêcheurs. Est-ce que s'ils tuent les poissons là-bas, ils viennent nous les vendre ici? J'ai dit que est-ce que ce que vous tuez ici, vous voyez, ce sont des frétins, les petits poissons vraiment. Est-ce que vous faites bon ou bien vous faites mal? Hein? Le gouvernement vraiment refuse de telles pêches. Ils disent que est-ce que le gouvernement d'abord ont des bateaux de pêche ou bien ont une méthode de nous apprendre pour pêcher. Alors nous pêchons, c'est notre survie, c'est notre vie. C'est ce que nous faisons, c'est que nos enfants étudient et nous aussi, nous soyons en bonne forme. Alors, concernant ce que l'invité dit là, qu'est-ce qu'on peut procurer aux pêcheurs pour qu'ils soient vraiment respectueux au programme de pêche et pour préserver aussi la survie et la meilleure croissance des poissons? Tout ce que ça se dit, c'est bien. Tout ce qu'il a dit, c'est bien, c'est normal. Mais dans notre pays, est-ce que ça peut être suivi? Tout ce qu'il n'y a aucun ordre énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire les pêcheurs? Alors les pêcheurs vont faire ce qu'ils veulent.
Voilà, les pêcheurs vont faire ce qu'ils veulent. Hein. Monsieur Gabriel Kombosi, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Ça fait mal au cœur, n'est-ce pas? Ça fait mal au cœur d'apprendre tout ce qui s'est dit en province, comme les auditeurs viennent de le dire. Et à la première question qu'on me demande, la population souffre de faim, alors que nous déclarons que nous avons des poissons dans nos fleuves. La deuxième, on nous dit, qu'est-ce que vous voulez? Les pêcheurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, moi, j'ai fait la réponse pour dire, c'est seulement la formation et l'organisation du système halieutique en RTC qui n'est pas là. Vous voyez, le budget alloué au ministère de l'Agriculture. Le ministère s'appelle ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Si on prend le budget alloué, mettons 3%, les 3%, on va les distribuer pour ce qui est des cultures vivrières, on va les donner aux cultures pérennes, c'est du saupoudrage qu'on pourra même pas donner à la pisciculture ou à la pêche. Mais avec quoi on va acheter des bateaux?
Avec donc quoi? Le domaine de, disons, de la pêche est négligé.
Tout à fait négligé, laissé pour compte. Aujourd'hui, les 200 000 tonnes que nous parlons aujourd'hui, c'est de la pêche artisanale. C'est de la pêche à la nasse. C'est de la pêche à la ligne. C'est de la pêche à la main, à la machette, et tout ça. Au filet, qui ne sont parfois pas de bonne qualité. Tout simplement. Je vous ai dit au départ, en 1960, un pêcheur pouvait aller sur le fleuve et revenir demain matin avec sa famille avec au moins 30 kilos de poissons. Mais aujourd'hui, il peut aller au risque de devenir réduit. Tout simplement parce que ce que nous avons déploré là, surpopulation des pêcheurs, des milliers de pêcheurs.
Ils sont maintenant nombreux, hein, les pêcheurs.
Nombreux, sur l'exploitation de mêmes sites qui n'ont pas été aménagés, destruction de frayeurs. Mais alors?
Mais quel est le service qui est censé faire respecter la période des fermetures des pêches?
C'est l'État. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous partez dans une fête, monsieur Jolie, vous êtes dans une fête, on vous présente une table garnie de plusieurs mets. Vous aurez difficile parfois à choisir ce que vous mangez d'habitude. Vous voyez? Mm-hmm. Vous pouvez être attiré par la couleur, par la beauté
de la fête. Vous pouvez être devant un embarras de choix.
Voilà, un embarras de choix. Oui. C'est ce qui se passe chez nous. La République a tellement de potentialités que quand on prend quelqu'un, on le nomme, il est ministre de l'Agriculture, il a un embarras de choix. Ou affecter le peu de ressources qu'il a, pour ce qu'il a pour l'agriculture. Mmh. Et très souvent, c'est bien qu'aujourd'hui on parle de Bukangalonzo, qu'on parle de d'autres structures, mais moi je crois que avec la pêche, et peut-être avec la pisciculture que je maîtrise le mieux, nous pouvons résoudre beaucoup de ces problèmes que les auditeurs nous posent. Je vais m'appeler pour donner un exemple à ces deux auditeurs. La République, le pays a 2 345 000 kilomètres carrés de superficie. Les études depuis nous disent qu'il y a au moins 1 800 000 kilomètres carrés disponibles, n'est-ce pas, pour la pêche et l'aquaculture. Moi, je prends seulement la fraction aquaculture pour essayer de résorber les déficits chroniques de 200 000 tonnes que nous exportons. Je prends 500 000 kilomètres carrés dans un élevage semi-intensif, c'est-à-dire où l'éleveur, disons le pisciculteur, il a son petit étang, il met cette compostière avec une fertilisation naturelle. Donc, il met dans le 500 000 mètres carrés, 4 poissons mètres carrés, nous aurons à peu près 20 000, n'est-ce pas, alevins, 20 millions d'alevins dans cela. Et si un alevin, au bout de 8 mois, 9 mois de l'élevage, peut nous donner 350 à 500 grammes, et vous comprenez que en moins de temps, n'est-ce pas, dans une année seulement, nous pouvons arriver à produire 1000 tonnes de poissons.
Mais vous avez suivi cet auditeur qui nous a appelé de Bandundu. Il dit, dans le Kwango, il voit les pêcheurs qui prennent des frétins. Alors, les frétins, est-ce que c'est, on peut dire que c'est leur taille? Et ce sont des poissons qui ont cette taille-là, ou bien ce sont des petits poissons qu'on doit laisser grandir?
Il faut faire la part des choses. Il y a des poissons qui sont frétins et ils ne grossiront jamais. Vous voyez? Mais il y a des poissons qui sont des alevins, n'est-ce pas, qui peuvent grossir, qu'on a arrêté cette croissance-là. Il faut faire la différence des choses, n'est-ce pas?
Donc il y en a deux catégories de frétins.
Les frétins, il y en a qui grossissent plus, c'est leur taille. C'est comme nous-mêmes.
Oui.
Il y en a des gros, il y en a des petits, ouais. C'est leur taille.
Et les autres sont juste des alevins.
Les autres sont des alevins, des espèces qui peuvent grossir pour arriver même à 2 kilos, 3 kilos, les poissons, ou même 5 kilos. Mmh. Et quand on les prend à 300 grammes, à 500 grammes, on a arrêté sa croissance. Là, c'est différent. Donc, il y a un problème de formation et d'éducation de la masse qu'il faut pour notre population de pêcheurs à tous les sites que nous avons à travers les pays.
Bien. Gentil Oumanou nous appelle de Kananga. Molili est à Dungu. C'est un foyer en Bidoya à Kananga. Vous voulez également participer à cette émission? Appelez au 081-890-63-94.
Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Okapi Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Okapi vous donne la parole. Okapi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Destruction des ondes des frayeurs. Quelles sont les conséquences? On en parle aujourd'hui avec Monsieur Gabriel Kombosi, directeur du service national d'aquaculture. Gentil Oumanou nous appelle des Kananga. Bonjour Gentil.
Bonjour Monsieur le journaliste. Bonjour Monsieur à notre invité du jour.
Quelle est votre question?
Je remercie Monsieur le journaliste de m'avoir accordé la parole. Et je voulais demander...
Oh, désolé, la liaison téléphonique, il y a un problème, on l'a perdu. Molili, il nous appelle des Dungu, bonjour.
Bonjour, ce n'est pas Molili, c'est Moïli.
C'est Moïli, voilà. Moïli, quelle est votre... Moïli, bien, quelle est votre question, Moïli?
Ma préoccupation ressemble à ce qu'il dit. Je ne sais pas, nous sommes dans une ONG de l'ACC, nous pratiquons la pisciculture. Mais il y a une inondation. Que faire après inondation à baisse d'eau pour que le poisson ne puisse pas mourir?
Merci Symphorien Bidoya de Kananga, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à tous.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est la suivante. L'invité a dit que ça fait 40 ans que la pêche n'est pas réglementée en RBC. Bon, est-ce que maintenant la pêche est-elle réglementée? Si elle est réglementée, nous ne voyons pas qu'il y a un changement qui est survenu. Parce que nous voyons que dernièrement, on dit qu'il y a des gens qui commencent à utiliser des moustiquaires à la place des filets pour faire la pêche. Bon, il y a, j'ai aussi une autre question. Il y a des populations riveraines qui n'ont que la pêche comme activité principale. Bon, qu'est-ce qu'on prévoit lors de la fermeture de l'eau? Quand on ferme les lots parce qu'ils n'ont que la pêche comme l'activité principale. Quand on ferme l'eau pour que les poissons puissent encore accroître, on leur propose quoi?
D'accord. Merci, Symphorien. Michel nous appelle des Kikuit. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour, merci, le journaliste. J'ai toujours des préoccupations à propos de cette situation d'aujourd'hui.
Oui.
Quand je vois la population de Kinshasa à l'étendue de notre pays, souvent, les vrais aliments que nous consommons aujourd'hui sont les poissons de la mer qui viennent de l'extérieur. Au moment où notre invité nous dit qu'il y a des poissons, il y a des choses que nous perdons toujours dans notre pays. C'est ce que je suis en train de me demander. Quelles sont les conditions que nous pouvons voir cet aliment-là? On dit que les aliments qui sont conservés, tels que les poissons de la mer qui viennent de l'extérieur, commencent encore à nous causer des torts. Et il y a des gens qui sont devenus des maladies à cause de ça.
D'accord. Merci, Michel. Monsieur Gabriel Kombosi, oui. Vous avez la parole.
Merci pour les deux questions, pour les mêmes trois. Je commencerai par Monsieur Gentini, je crois, qui pose la question de savoir les pêcheurs ayant comme activité principale la pêche. Pendant la fermeture.
Symphorien, voilà.
Symphorien.
Pendant la n'ont pas d'autres activités, voilà. Ils n'ont pas d'autres ressources.
Vraiment, c'est. On dit, mon peuple périt par ignorance. La pêche, c'est une cueillette. C'est une activité aléatoire. Vous pouvez aller attraper, tout comme vous ne pouvez pas attraper. Mais la pisciculture, n'est-ce pas? L'élevage des poissons. Derrière leur case, je dis ceci maintenant, le pêcheur que vous m'attendez, derrière vos maisons, construisez des petits étangs. Mettez les alevins que vous prenez dans le fleuve, mettez-les là-bas, nourrissez-le, et vous verrez que vous ne perdrez pas beaucoup d'énergie pour attraper des poissons à manger et même à vendre pendant la période de soudure. Tout simplement pour dire qu'il faut développer la pisciculture qui se trouve être maintenant aujourd'hui une activité mondiale. Regarde, quand nous allons dans toutes les chambres froides, Nous prenons un carton de chinchard. N'est-ce pas? Nous arrivons à la maison, nous dépièçons. Nous avons des pièces.
Et c'est bien congelé?
Bien congelé. Je prends une rame. J'ai déjà fait cet exercice-là. Une rame, parce qu'il y en a trois dans les cartons. Mmh. Vous prenez une rame, et c'est autour de 35, 30, 40 poissons. Et tous les poissons ont le même âge, de même taille, je voulais dire. Dis-moi, quel est ce fleuve au monde où vous jetez votre filet, vous n'attrapez que des poissons de même taille?
De même taille.
Je crois que jusque-là, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire quelque part où il a vu ça. Alors, s'il n'y en a pas, c'est-à-dire ces poissons proviennent de quelque part. Ce sont des poissons d'élevage qu'on nous envoie ici. C'est-à-dire quoi? Les amis là, qui ont surexploité, qui ont fini leur biomasse, leur, disons, quantité de poissons qui sont dans leurs eaux, ils se sont retrouvés avec des substrats, qui est l'eau qui n'a plus de poissons. Ils ont créé des écloseries, n'est-ce pas, pour reproduire les poissons naturellement, artificiellement, je voulais. Alors, les remettre dans la reproduction, les nourrir. Et enfin, on nous envoie ici. Les pêcheurs qui n'ont pas de moyens de se nourrir en dehors de la pêche, ils peuvent faire la pisciculture.
La pisciculture, derrière là, leur maison, vous avez dit, les pêcheurs peuvent avoir des
ils
étangs.
Ils peuvent le faire voilà. Derrière leur maison.
Comme ça, pendant avoir... la période de fermeture des pêches,
voilà.
Ils vont aller chercher le poisson dans leurs étangs.
Et là, ça va permettre aux poissons qui sont dans les frayères de se multiplier. Et ça va diminuer aussi la pression que nous faisons sur nos parcs. On n'a pas dit ça. Et je suis heureux. Maintenant, nous parlons. Il y a une mission. Disons, financée par les PANA. C'est un projet de l'environnement qui est à Kikuit présentement. Et au moment où nous parlons, il y a une formation sur la pisciculture là-bas.
À Kikuit.
À Kikuit, aujourd'hui où je vous parle. Donc, notre auditeur de Kikuit, s'il peut se rendre à l'inspection provinciale de l'agriculture, il peut participer déjà à cette formation. C'est dire que une pièce de rechange pour pouvoir diminuer la pression sur le foyer, diminuer la pression sur les sites qui n'ont pas été aménagé jusque-là.
C'est la pisciculture. La promotion de la pisciculture.
Promotion de la pisciculture avec plusieurs méthodes. On peut le faire sur les terres, le sol battu, les étangs en terre. On peut le faire sur les cages flottantes, voyez, sur le même fleuve où ils font la pêche. On peut construire, n'est-ce pas, des cages qu'on peut immerger là-bas et mettre les alevins, les nourrir. C'est pas l'aliment qui nous manque. C'est pas l'aliment. Et je salue ici en passant nos amis de Maniema qui ont compris, après notre passage, après le passage de Senakwa, pour quelques 5 jours, aujourd'hui les images qui nous renvoient dans l'Internet, ben, ça ne fait que réconforter.
Ça veut dire qu'ils ont de plus en plus des étangs.
Ils
développent de plus en plus des étangs. Avec.
Voilà, ils ont compris la technique de construction des étangs.
Oui.
Et qu'ils les mettent en exploitation. Et par rapport à ce qu'ils avaient déjà comme culture de faire les états des barrages, maintenant aujourd'hui on diminue toute cette pression là sur les rivières.
Alors pour réduire cette pression sur les rivières, sur les zones des frayeurs, ces pêcheurs ont besoin aussi d'être formés.
Justement, c'est pourquoi je reviens en amont pour dire il faut que les décideurs trouvent une solution.
Si aujourd'hui, il faut un budget, il faut des moyens pour vous permettre de circuler à travers le pays, bon, rencontrer ces pêcheurs.
Peut être là. Moi je sens que le budget peut être là, mais quand il n'y a pas la volonté, n'est-ce pas? Quand il n'y a pas un technicien à la tête de cette histoire-là, ça peut ne pas marcher aussi.
Voilà, parce que c'est encore un problème.
Vous présentez un problème. Et nous l'avons fait plusieurs fois par les ministres qui sont passés. Mais ils trouvent que non, mais...
Mais c'est pas important.
C'est pas important.
Tu sais, les poissons, on a beaucoup de poissons chez nous.
Je suis certain. Oui. Le jour où on comprendra la chose et qu'on essaierait de créer, n'est-ce pas, un office de ressources halieutiques propre où il y aura seulement des techniciens de pêcheurs, de pisciculteurs, vous verrez qu'ils prendront en compte les préoccupations de tous ces pêcheurs ici et ils mettront tout ce qu'ils peuvent mettre en marche pour faire fonctionner cette histoire.
Soupi Nyembo nous appelle des Kalima. Bonjour Soupi.
Bonjour, je dis merci à l'équipe et surtout aux auditeurs. J'ai des préoccupations.
Merci.
Monsieur Jelly, Daniel. Ici, chez nous, je vais demander de l'air pour faire un. C'est parce que j'ai constaté. Il y a de certaines personnes qui attendent même pendant un an et les autres qui attendent seulement après 3 mois, 4 mois. Non, moi je suis pressé de passer cette période, donc nous sommes au proche de la fête. Les autres attendent seulement 3 mois, 4 mois, les autres une année. Mais je voulais demander auprès de notre invité la précision des délais si vous avez votre bassin. Il faut attendre après combien de mois? Et d'aider aussi pour compléter la même question, cette même première, en disant ceci. Devant les autres, après avoir mis les enlevés, et demain ou le lendemain, les pêcheurs, les petits, hein, donc les petits garçons, commencent à payer directement au bassin. Je voulais aussi demander à compléter les mêmes, la même question en disant ceci. Est-ce qu'il faut compter des mois pour que les petits puissent commencer à pêcher et pour finir la deuxième maintenant préoccupation? Je vois toujours ici chez nous, si nous avons des bassins, beaucoup de gens ne s'occupent pas, ne s'approchent pas pour donc donner la nourriture aux poissons. Ils laissent seulement les pailles qui sont au milieu du bassin pour que les poissons se servent à ces pailles-là et ces pailles-là pour être leur nourriture. Je voulais demander maintenant auprès de notre invité, est-ce que cela est une bonne pratique ou il faudrait renforcer donc la nourriture combien de fois si vous voulez donner donc aux poissons qui sont à votre bassin, combien de fois par jour? Voilà.
Non, ce n'est pas notre thème du jour. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus de la destruction des ondes des frayeurs. Quelles sont les conséquences et qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour prévenir? Notre invité nous a dit qu'il faut encourager faire la promotion de
la pisciculture
ou l'aquaculture. Et comme ça, lorsqu'il y aura une période de fermeture des pêches, alors les pêcheurs peuvent recourir à leurs étangs. Ils ont du poisson, ils vont continuer à les vendre pour avoir de l'argent. Alors, évidemment, on veut savoir quelle est. Vous avez parlé de la période de fermeture des pêches. Ça dure combien de temps? 2, 3 mois, 4 mois?
Non, c'est pas une très longue période.
C'est pas une très longue période.
Non, c'est
comment se fait les cycles de reproduction des poissons? Ça se passe comment?
Non, mais il y a la ponte, n'est-ce pas? Les femelles pondent et les mâles viennent à s'émancer. Curieusement, c'est pas la fécondation ne se fait pas in vitro, n'est-ce pas? C'est pas dans l'organisme de la femelle, n'est-ce pas? La femelle pond des œufs qui surnagent et le mâle vient avec sa semence, il répand là-bas et il y a éclosion. Tous les 21 jours, par exemple, dans un étang, quand vous avez mis les femelles dans le ratio un tiers, donc un mâle contre 3 femelles, vous verrez que dans ces bassins-là, 21 jours après, vous pouvez avoir les eaux qui bougent.
Vous avez déjà des alevins.
Il y a déjà des alevins. Et dans les...
Après 21 jours.
21 jours. Vous avez ces alevins-là. Et maintenant, il faut les produire, il faut les protéger, les nourrir. Notre ami a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des poissons, hein, pour les nourrir? Il y a ce déficit de formation qui existe dans nos populations, nos écoles. C'est tout simplement ça. Vous voyez, même vous, derrière votre garage là, hein, vous pouvez construire un bac en bois, de poids de coffrage ici. Vous garnissez de bâches imperméables, vous mettez de l'eau.
Et on met des poissons, et on met des alevins là-bas.
Vous mettez des alevins et vous les nourrissez chez vous derrière le garage. Vous avez l'aliment, nous avons des formules. À tel âge, il faut donner telle catégorie d'aliments, à tel autre, jusque à la cueillette ou à la pêche. À la récolte. 6 mois, 9 mois. Ça dépend du système que vous avez opté. Nous avons l'extensif, le semi-intensif et l'intensif, tout simplement. Alors, l'ami là, ce qu'ils font dans les élevages naturels, dans les bassins qu'ils appellent, ils font de la fertilisation naturelle. Alors, cette fertilisation naturelle, les poissons vivent au dépens de ce qu'ils trouvent dans l'eau. Il n'a pas un apport supplémentaire pour lui donner. C'est ainsi. Autour de lui, l'ami t'a posé la question. N'est-ce pas qu'il peut avoir le sang de riz, il peut avoir le maïs, le sang de maïs ou la farine de maïs, il peut avoir le manioc, il peut avoir le soya. Et tout ça, ce sont les éléments qui entrent, les ingrédients qui composent l'aliment des poissons.
Les poissons. Voilà, il y a un auditeur qui a parlé de l'inondation. Est-ce qu'à part la destruction, la pression des pêcheurs sur les zones des frayeurs, oui, est-ce que l'inondation aussi est un facteur qui détruit les poissons?
Oui, quand il y a l'inondation, n'est-ce pas? C'est d'abord parce que si les étangs n'ont pas été mis dans un choix, dans un site bien choisi. Parce que les étangs ne peuvent pas survivre dans un espace où il y a la terre est sablonneuse. Vous voyez? temps. Il y a des étangs, des conditions qu'il faut construire des étangs. Ça dépend de l'espace, ça dépend du site. La terre est sablonneuse, argileuse ou semi. Voyez. Alors, pour les amis qui sont dans les zones inondables,
oui,
on leur conseille plutôt de faire, nous attendons la technologie égyptienne qui va arriver, faire l'élevage en cage flottante. C'est-à-dire, quand l'inondation est là, la cage aussi flotte avec ces mêmes poissons qui ne se perdent pas.
Bien, monsieur Gabriel, nous, ouais, nous avons appris également que la cité du fleuve, ici à Kinshasa, a été érigée sur une zone d'effrayeur. Un espace où se reproduisent les poissons. Et à cause de cela, aujourd'hui, on assiste à une rareté des poissons sur les marchés. Est-ce que vous confirmez cela?
Là, vous m'envoyez à aller dans un aspect politique des choses. Moi, je ne saurais pas.
Bon, je ne parle pas de l'aspect politique, mais est-ce que...
Oui. Parce que si je dis aujourd'hui que c'est une erreur monstrueuse, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Ils ont vu l'immédiat, n'est-ce pas? On construit là-bas, on aura des villas, on aura tout. Mais ils ont oublié les moyens et les long termes. Vous l'avez dit vous-même, on a détruit les frayères. Le pôle Malebo, aujourd'hui, est amputé de sa capacité, de cette possibilité d'avoir des poissons qui vont naître, qui étaient en train de naître dans ces frayères.
Dans cette maternité-là.
Voilà. Maintenant, il faut faire maintenant la part des choses. Qu'est-ce qu'il faut gagner? Est-ce qu'on a gagné en construisant la cité? Est-ce qu'on aurait gagné si on avait préservé ce site-là? Mais l'immédiat...
Déjà, la cité-là, pour avoir un appartement, j'ai vu, hein, la compte, c'est 50 000 dollars. Hein.
Vous comprenez? Donc, je ne saurais pas glisser dans cette affaire-là. Mais le pays a tellement de potentialités qu'on peut aller ailleurs. Mais il faut qu'on mette chacun à sa place. S'il y avait un contrepoids, n'est-ce pas? Quelqu'un qui pouvait dire non, n'est pas là-bas, mais aller ailleurs.
Aller ailleurs.
Il donnerait les raisons. Mais comme souvent. Mais
peut-être que vous n'avez pas signalé avant, hein, avant de construire pour dire que, attention, là-bas, c'est la zone.
Non.
Les poissons sont là-bas.
Nous avons toutes les données, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
La RDC a un vademecum agricole où on indique où on peut faire quoi. Tu vois? Et souvent, le ministère de l'Agriculture, les experts du ministère de l'Agriculture ne sont pas consultés pour certaines décisions.
Voilà, ils ne sont pas consultés pour certaines décisions. Alors, c'est la période des fêtes. Les gens, il y a certaines personnes aiment bien manger les bons poissons, hein, pendant cette période. Je pense qu'on va quand même en trouver sur le marché. Hein.
Bon, on en trouvera comme on a toujours trouvé.
Mais du bon poisson.
Du bon poisson, il faut le chercher. Oui. Bon, ça, vraiment, c'est une question.
Parce que certains n'aiment pas manger de la viande, tout ça. Certains préfèrent manger les poissons. Hein.
Les quelques rares pisciculteurs que nous encadrons ici, quand il faut la vidange de leurs étangs, les poissons ne quittent même pas les digues des étangs. C'est-à-dire, ils sont rachetés en avance. Il y a tout simplement un problème de faible production.
Mais ici, à Kinshasa, y a-t-il des endroits, des étangs où on peut aller trouver de bons poissons pour fêter pendant cette période?
Bien sûr, bien sûr. Tu n'as pas vu quelque part dans la cité, on parle d'Ngolo Moseka.
Ngolo Moseka.
Ah. Il y a un film sud-africain sur la route du Congo.
Non, je pense Banzangu. Que peut-être Tati Mapuku en a entendu
non,
parler.
Non, loin de Banzangu.
Ngolo Moseka.
Voilà.
Où on vend des bons poissons à Dingolo.
On vend des clarias d'Ngolo, justement.
Moseka.
Vous pouvez manger. Donc, c'est le nom que le propriétaire a donné.
A donné à ce poisson-là.
Bon, vous pouvez aller chez le professeur Machako. À Kasangulu, vous trouverez du poisson. Et je n'aimerais pas peut-être faire la publicité des étangs de son excellence, monsieur le Premier ministre, où j'ai été moi-même.
Où vous avez du bon poisson.
Où j'ai été moi-même parmi les gens qui ont implanté cette ferme-là. C'est-à-dire que il y a ce qui s'est dit là au départ, un embarras des choix dans les affectations de nos moyens.
Bien,
le
merci.
Jour où on va responsabiliser les gens
tout à fait.
Pour nous occuper que de cela, au moins, à cette période de décentralisation, où on dit il faut rapprocher les gouvernés des gouvernants, rapprochons aussi les pêcheurs. 104 heures de pêcheurs de pisciculture.
Merci beaucoup, monsieur Gabriel Kombosi, directeur du service national d'aquaculture. Quelques messages de vœux, quelques vœux à vos proches rapidement.
À tous les pêcheurs, à tous les pisciculteurs, d'où qu'ils trouvent, ils sont, hein, ils sont les gens, ils sont dans les Malembankoulou, ils sont à Kalemi, ils sont à Siafoumou, ils sont
à Chitouagenia,
à Kisangani, Wanyalukula chez moi, à la Tchopo, à Isangui et partout. Je salue tout le monde en passant et que je dis qu'ils tiennent bon. Les jours nous aurons la chance d'avoir un décideur qui ira dans le sens où nous pensons que nous avons toujours écrit pour développer la ressource halieutique, la promotion de la ressource halieutique, nous allons bannir tout ce qui est comme importation de chéchards et de poissons de faible qualité.
Valeur nutritive. Voilà. Merci Monsieur Gabriel Kombozi, à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.